Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans ces chroniques de la semaine d'Analyse F1. Aujourd'hui, des chroniques entièrement consacrées à McLaren, car McLaren fait beaucoup parler récemment pour deux raisons. Tout d'abord, le marché des transferts, où McLaren est une écurie, une grosse écurie qui n'a pas encore annoncé son duo. Et McLaren fait parler également pour ses résultats assez catastrophiques cette saison une nouvelle fois. Et donc, les chroniques que je vais faire aujourd'hui sont un peu concernées par ces points. Tout d'abord, je vais parler d'Éric Boullier, le team principal français de McLaren Mercedes. Et on va essayer de voir si ces récentes déclarations ne peuvent pas mettre en doute sa compatibilité avec un top team. Alors, qu'a déclaré Éric Boullier tout d'abord ? Tout d'abord, il a déclaré ceci. Je cite « Ce serait prétentieux d'affirmer qu'on peut gagner l'année prochaine en changeant de partenaire motoriste. Le programme avec Honda est très ambitieux, mais je crois qu'il faut rester humble et avancer étape par étape. » Alors là, c'est une déclaration qui m'a directement interpellé. Pourquoi ? Parce que elle prend le contre-pied direct de Honda et de toute sa communication, parce que Honda a déclaré à de multiples reprises vouloir revenir avec McLaren en 2015 et directement gagner des courses pendant cette saison. Et là, Boullier joue le rôle d'extincteur dans cette histoire, et selon moi, c'est très mauvais. C'est très mauvais, parce que McLaren est un top team historique, et les résultats de ces deux dernières saisons ne sont vraiment pas à la hauteur de ce top team. Comme on l'a vu, hein, l'année dernière, aucun podium. Cette année, un podium en tout début de saison et ensuite plus rien. Un Éric Boullier qui d'ailleurs, en début de saison, s'est trompé. D'habitude, il a une très bonne vision des choses. On l'avait vu avec Lotus, où il savait bien prédire en début de saison quelle place viser, quelle place aurait Lotus en fin de saison. Ses prédictions étaient relativement bonnes, mais là, avec McLaren, tout faux. Puisque, après 3-4 courses, il disait vouloir conserver la deuxième place du championnat des constructeurs derrière Mercedes, et on voit que la monoplace en était très loin en termes de performance. Donc, c'est vraiment un coup de massue qui s'est abattu sur la tête, peut-être, de McLaren, qui ne s'attendait pas à ce que la monoplace soit si mauvaise. Encore une fois, McLaren trop sûre d'elle, comme la saison dernière, où ils ont choisi de rester avec leur châssis, de ne pas en changer, alors que le châssis 2013 était catastrophique. Cette année, une erreur, encore une fois, d'assurance démesurée, puisqu'ils sont 6e du championnat du monde des constructeurs, en lutte avec Force India pour la 5e place et seulement pour la 5e place des constructeurs. Donc on est très loin de cette 2e place dont on parlait en début de saison. Et donc, les déclarations de Boullier, là, que je viens de vous lire, selon moi, il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça chez McLaren. Il ne respecte pas le statut, à mon avis, de top team historique de McLaren en disant ça. Il veut certes se montrer humble, il le dit. Il veut se montrer tout sauf prétentieux. Mais selon moi, c'est pas de la prétention de dire que McLaren veut revenir directement aux avant-postes en 2015. Selon moi, c'est de l'ambition, et on peut rester humble tout en étant ambitieux. McLaren peut admettre avoir fait du mauvais travail en 2013 et 2014 et rebondir en 2015 en profitant en plus d'un motoriste historique de McLaren qui s'appelle Honda et de revenir au premier plan. Voilà, ce n'est pas prétentieux, c'est juste du respect pour l'histoire de McLaren, pour les fans de McLaren également qui aiment ce team pour ce qu'il est. C'est-à-dire un team assez prestigieux, peut-être pour les pilotes qu'a eu McLaren, bref, pour toute l'histoire. Et d'ailleurs, on ne peut pas rejeter cette histoire. McLaren ne pourra jamais se réduire à un rôle de team normal. Je l'avais déjà démontré dans le podcast relatif au top team historique. Je vous renvoie à ce podcast une nouvelle fois. Décidément, ces dernières semaines, je vous renvoie souvent à ce podcast. Et ça veut dire que je parle souvent des top teams et que le sujet est lié. Et donc, non, McLaren ne peut pas rejeter ce statut, même avec des déclarations, on va dire, d'assurance, en se disant, bon, ben, on n'est pas sûr de gagner l'année prochaine, hein, faudra nous excuser, hein, on va aller étape par étape. Non, 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 il n'y a pas ces excuses-là, puisque McLaren cultive elle-même ce statut à Woking. Il suffit de rentrer à Woking. La grande allée là à Woking, remplie de monoplaces historiques de McLaren, ça veut tout dire. Tu rentres dans ce complexe et directement quand tu travailles là, tu ressens toute l'histoire. D'ailleurs, les pilotes, nombreuses déclarations de pilotes d'année en année concernant ça, de personnel également. Ils se sentent redevables de cette histoire. Et donc, Boullier ne peut pas faire cette déclaration comme il le ferait dans une autre team. Si Boullier fait ses déclarations dans un autre team, genre par exemple chez Lotus, s'il avait fait ses déclarations chez Lotus et fin de team, il n'y aurait pas eu de souci. Pourquoi ? Parce que Lotus, certes, a un gros passé, est un team historique, mais n'a pas la même pression que peuvent avoir Ferrari ou McLaren. Du fait de la longue pause de Lotus, qui maintenant est vu plutôt comme un team outsider ces dernières années, un team plutôt classique qui essaye maintenant de survivre en Formule 1, alors que McLaren est un top team historique qui a des obligations, tout comme Ferrari, qui a des obligations de très haut niveau. Et donc, en vertu de ces obligations, des déclarations peuvent être bien interprétées dans un team, mais mal interprétées dans d'autres. Et là, c'est parfaitement le cas, puisque Eric Boullier a déclaré ça en étant chez McLaren et non pas en étant chez Lotus. Et selon moi, c'est pas très bon, puisque là, il se place comme s'il était dans un autre team, dans un team qui n'avait pas d'exigence de revenir au très haut niveau, comme si McLaren avait le temps de revenir d'année en année. Non, c'est pas le cas, enfin. Certes, il peut y avoir cette approche, on l'a vu avec Ferrari à la fin des années 90, avec notamment l'arrivée de Michael Schumacher chez Ferrari, et ensuite ils sont revenus au plus haut niveau en quelques années, même si même les premières années, Ferrari était déjà revenu en bataille pour les podiums et la victoire. Donc c'est dire quand même que même si pour revenir au titre mondial, il faut des années, pour revenir à la victoire et au podium, c'est possible de le faire sur le court terme. Et là, Boullier prend le contre-pied de tout ça, prend le contre-pied de Honda, prend le contre-pied, on va dire, du salut de McLaren qui doit passer par Honda, puisque depuis maintenant des mois où McLaren ne peut plus rien faire pour la monoplace 2014, eh bien le salut passe par celle de 2015 avec l'arrivée de Honda. Ça se voit dans les déclarations de Honda, de McLaren également, généralement. Et là, Boullier prend le contre-pied. C'est là que ma question se pose concernant sa compatibilité avec un top team. Et seulement cette question, attention, parce que je ne remets pas en cause les compétences d'Eric Boullier en tant que team principal. Il a fait ses preuves chez Lotus, a été repéré par McLaren et a été engagé par McLaren, ce qui est quand même une preuve de qualité, selon moi. Mais, par contre, est-ce qu'il est compatible dans un top team ? Ça, ces dernières déclarations m'ont surpris et me font me poser la question, en tout cas. Donc, réponse à mon avis à venir de la part de McLaren, puisqu'il y aura peut-être un recadrage dans la communication de Boullier de la part de Ron Dennis ou de la part, en tout cas, d'instances dirigeantes de McLaren. Voire plus, si jamais Boullier est estimé, on va dire, pas compatible justement avec un top team comme McLaren, et là, il sera écarté au profit de quelqu'un qui aura vraiment une fibre de gagnant, une fibre McLaren, j'ai envie de dire. Mais Boullier, là, peut-être, c'est peut-être il s'est un peu égaré dans une déclaration, il va peut-être être cadré dans les semaines et mois à venir, on va le voir. Ensuite, pour faire une comparaison avec l'autre top team historique, c'est-à-dire Ferrari, c'est là qu'on voit la différence entre Boullier et Marco Mattiacci, puisque Mattiacci a déclaré « l'objectif est de gagner, pas de rattraper les autres ». Et là, il parlait dans cette interview, il parlait de la saison prochaine notamment. Donc l'objectif est clair pour Ferrari et le team principal de Ferrari, c'est de gagner, de revenir à la victoire et non pas d'y aller petit à petit. Et là on voit le contraste entre le team principal de Ferrari qui a tout compris. Qui a tout compris de l'esprit Ferrari, c'est un vrai tifosi. Il sait que la pression est énorme sur ses épaules et que le retour à la victoire est obligatoire et nécessaire pour redorer le blason du cheval cabré. Et Boullier devrait faire pareil parce que McLaren a la même exigence de victoire. Voilà. Tout est dit sur Eric Boullier, sur, on va dire, sa compatibilité discutable avec un top team, c'est tout à fait discutable encore. Hein. Je n'ai pas tranché, on va dire. Je n'ai pas dit Eric Boullier est incompatible avec McLaren ou est compatible. On verra dans les semaines et mois à venir comment ça va se passer, ce que la direction de McLaren en aura pensé. S'il est reconduit pour la saison prochaine, à mon avis, c'est que McLaren l'estime tout à fait compatible. Et attention, encore une fois, j'insiste, je parle de compatibilité, non pas de compétence. C'est tout à fait différent. C'est comme par exemple en football, il y a des coachs qui peuvent être, on va dire, très forts avec certaines équipes, très bons avec certaines équipes, mais ensuite quand ils se retrouvent avec un team, avec une équipe qui a des exigences supérieures, telles par exemple le Real Madrid, Barcelone ou toute autre grosse équipe qui a des grosses exigences de performance chaque année, eh bien là ça peut coincer, alors que pourtant c'est des entraîneurs tout à fait compétents, tout à fait bons, mais dans un certain contexte particulier, eh bien ils ne se retrouvent pas à la hauteur de la tâche en termes de compatibilité. Voilà, je tenais à faire, comment dire, le distinguo entre les différents termes. Eh bien c'est tout, on va parler maintenant de Kevin Magnussen, mais avant ça, vous le savez, il y a une pause musicale. À tout de suite.
Thank you.
Vous êtes bien sur Analyse F1 et vous venez d'écouter un extrait de Egmont Overture opus 84, une composition de Ludwig van Beethoven. Et voilà, on est de retour pour parler de McLaren. McLaren et cette fois-ci d'un de ses pilotes, c'est-à-dire Kevin Magnussen. Kevin Magnussen qui a eu des déclarations assez étonnantes cette semaine. Je vais revenir dessus. Avant ça, on va se remettre dans le contexte de Kevin Magnussen parce que on n'en a pas trop parlé finalement cette saison. On a surtout parlé lors du marché des transferts 2013-2014, mais en début de saison, mais beaucoup moins ensuite. Alors, histoire de remettre les choses dans le contexte, Kevin Magnussen, c'est un début de saison bon puisqu'il a effectué pour la première course de sa carrière un podium et une deuxième place, hein, enfin une deuxième place en l'occurrence à Melbourne, mais sa saison sinon bon, on peut la qualifier de globalement anonyme, un peu masquée également par les performances de son coéquipier champion du monde Jenson Button qui est plus régulier dans les performances et le devance plutôt confortablement au championnat du monde des pilotes. Mais il a fait le boulot plutôt Magnussen, on peut pas dire non plus qu'il a été mauvais. On l'a également identifié à certaines manœuvres discutables, notamment à Spa sur Fernando Alonso, mais un pilote qui en veut, qui a la niaque en tout cas, et qui a envie de se montrer, ça c'est sûr. Mais je pense que maintenant, en l'état actuel des choses, avec cette McLaren qui est pas très forte, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, même assez mauvaise pour une McLaren. Je pense qu'on ne peut pas tirer tout de suite des conclusions sur son talent et sur son éventuel potentiel de champion du monde. Il faut attendre avant. Il était opposé dès sa première saison. Enfin, il avait comme coéquipier un champion du monde. C'est quand même compliqué. Il n'avait pas en plus une monoplace forcément facile à piloter. D'autant plus que cette saison, il y avait la nouvelle réglementation F1. Donc, bon, je pense qu'on peut, attendre avant de le juger. Mais est-ce que McLaren va attendre? Ça, c'est la question. Et c'est là que vient le point du marché des transferts, puisque McLaren n'est pas sûr encore. McLaren n'est pas sûr de son duo de pilotes et tarde à l'annoncer. Donc, on ne sait pas s'il y aura Button, on ne sait pas s'il y aura Magnussen. Ça se trouve, il n'y aura aucun des deux. Les deux, bon... Peut-être, ça dépend. En tout cas, McLaren veut avoir le meilleur duo de pilotes possible. Et pour l'instant, attend de voir s'ils peuvent s'offrir un champion du monde, par exemple, un autre champion du monde, pour, on va dire, augmenter la qualité de son line-up. Donc voilà, l'avenir de Magnussen est assez flou pour cette raison. Et il a fait des déclarations, d'ailleurs, concernant son éventuel avenir en Formule 1. Voilà, je vais vous citer ce qu'il a dit et je vais en parler juste après. La manière dont je le vois, c'est que si je ne peux pas réussir directement avec McLaren maintenant et être suffisamment bon avec eux, pour eux, pardon, alors je ne serai jamais assez bon. Il n'y a donc pas de raison pour moi d'aller dans une plus petite équipe et tracer ma voie, car si je ne le fais pas tout de suite, je ne serai jamais champion du monde. Voilà! Donc, autant dire des déclarations très joyeuses, hein, qui mettent le baume au cœur et qui donnent envie de bien se lever le matin. Non, c'est des déclarations évidemment très fatalistes de la part du jeune Kevin Magnussen. Et parce que en disant ça, très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne considère pas que lui peut avoir une marge de progression. Il ne considère pas avoir une marge de progression. Il ne considère pas qu'il peut s'améliorer. Donc c'est très grave pour un pilote de dire ça. Ça veut dire qu'il se considère à un niveau maximum aujourd'hui et qu'il ne peut pas s'améliorer. Mais quand les autres teams vont lire ça, même d'autres top teams, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, quand on regarde le championnat du monde des pilotes, il est en dessous de Button. Et là, on va se dire, ben, si ce pilote ne considère pas qu'il peut s'améliorer, à quoi ça sert qu'on le prenne? Bon, sauf évidemment si un team de milieu de tableau, de bas de tableau veut le prendre, mais comme Magnussen ne veut pas, est-ce que quelqu'un va lui proposer un baquet de n'importe quelle équipe, à part McLaren, justement, il compte justement son salut, il veut que son salut repose sur la décision de McLaren. C'est très dur ce qu'il fait. Il croit peut-être mettre la pression à McLaren, mais au lieu de ça, je pense qu'il se met une pression démesurée. tout seul. Il se rend la tâche plus dure, la tâche d'être champion du monde. Elle doit passer, elle est très difficile déjà. Rester en F1, c'est très compliqué. Rester dans un top team, ça l'est encore plus. Et notamment plus dans, chez McLaren, qui ces derniers temps n'hésite pas à, on va dire, virer entre guillemets leur pilote au bout d'un an. Donc il se rend la tâche d'autant plus compliquée qu'il pourrait la rendre plus simple en se disant que bon, il n'a pas encore tout appris, il y a des pilotes plus expérimentés que lui dans le plateau, et là il pourrait faire preuve d'humilité. On en parlait de l'humilité, mais là il n'en fait pas trop preuve, parce que il faut qu'il se rende compte que ce plateau en 2014 est assez fort quand même, et relativement fort, et qu'il est au milieu de gros bras de pas mal de champions du monde, de pas mal de pilotes qui émergent et qui explosent, et bon, il devrait faire le dos rond, je pense, et voir qu'il peut encore s'améliorer, qu'il peut aller peut-être dans un team de milieu de tableau, prouver sa valeur contre un autre coéquipier, et justement montrer qu'il peut évoluer dans sa carrière, et non pas se cantonner à dire je suis comme ça. Si McLaren voit que, ne considère pas que je suis assez talentueux, entre guillemets, si McLaren ne me garde pas la saison prochaine, eh bien, je ne vois pas pourquoi je continuerai en Formule 1. C'est très immature, en plus, comme en plus d'être fataliste, c'est très immature de dire ça, hein, de la part de Kevin Magnussen. La maturité de Magnussen, c'est un point important sur lequel on peut discuter. Pourquoi ? Parce qu'on se l'a posé cette question l'année dernière, lorsqu'il a été annoncé que Magnussen allait remplacer Sergio Pérez. C'était une question qu'on pouvait se poser avant le début de saison et que de nombreux articles ont repris en se disant, est-ce que Kevin Magnussen a les épaules pour rentrer dans le bain de la Formule 1 et qui plus est dans une écurie comme McLaren. Bon, début de saison, il semblait que tout se passait bien. C'est normal, il a eu un très bon résultat et ensuite, bon, son très bon résultat, on va dire, est resté quelques courses, on va dire, dans le championnat du monde des pilotes. Puis ensuite, au fil du temps, avec l'enchaînement des courses, c'est devenu une saison assez lambda, finalement, de la part de Magnussen. Tout comme Button, d'ailleurs, même si Button est plus performant compte tenu de son classement au championnat du monde des pilotes. Mais voilà. Là, maintenant, avec cette déclaration qui arrive, on va dire, au crépuscule de la saison 2014... On voit bien qu'il manque quand même de maturité. Et quid de l'encadrement de McLaren ? Quid de l'encadrement de ses parents, et notamment de son père, ancien pilote de Formule 1, Yann Magnussen ? Quid de tout ça ? Est-ce que cet encadrement a été assez bon, finalement ? Pourtant, McLaren, on le sait, quand ils ont fait monter Hamilton était prêt, vraiment prêt, dès la première saison. Il rivalisait avec Fernando Alonso. C'est dire quand même... la qualité d'Hamilton et la force de caractère de ce pilote qui le prouve encore aujourd'hui. Mais voilà, Magnussen n'est pas Hamilton, on s'en rend bien compte aujourd'hui, et il n'accepte pas qu'on puisse lui dire que son niveau n'est pas, on va dire, suffisant, puisqu'il voudrait en tout cas en mettre un terme à sa carrière à 22 ans. Il a 22 ans. Si McLaren ne le garde pas, et bon, c'est assez grave, et selon moi McLaren est peut-être critiquable justement dans cette gestion, puisque McLaren l'a mis sur un piédestal au début de saison pour justifier le remplacement de Sergio Pérez en disant Magnussen c'est une pépite, c'est comme Hamilton. Bon, d'ailleurs, quand on regarde la carrière des deux, bon, c'était quand même similaire, c'est vrai. Je me souviens avoir regardé, il me semble, la carrière des deux pré-Formule 1. Et c'est vrai que c'était assez similaire au niveau des titres, au niveau du nombre d'années avant d'accéder à la Formule 1. Mais les deux pilotes sont différents. Et psychologiquement, d'un point de vue psychologique, McLaren, quand McLaren dit que Magnussen est un pilote de grand talent... que c'est un champion du monde à coup sûr en devenir, on est sûr de notre coup, c'est lui qu'il nous faut, on le monte direct chez McLaren, pas besoin on le monte direct chez McLaren parce que ce serait du gâchis de ne pas le faire. Évidemment, Magnussen s'est dit, McLaren considère que je suis un pilote de grand talent qui peut être champion du monde dans les années à venir. Donc forcément, c'est que je suis à un niveau très élevé et que je ne peux pas aller plus loin. En gros, c'est le raisonnement de Magnussen qui transparaît aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est un peu la faute des deux, pour le coup, de McLaren de ne pas avoir assez encadré et protégé son pilote, là. J'espère qu'ils vont le faire, parce que là, cette déclaration, quand même, elle ne passe pas inaperçue, et j'espère qu'elle ne l'est pas passée de la part de McLaren, de la part aussi des parents de Magnussen. Et donc, j'espère qu'il va être un peu recadré, qu'il va y avoir une sorte de topo autour de ça, de débriefing, de longues discussions, pour essayer de lui faire entendre raison, parce que sinon, ce serait du gâchis. Ce serait du gâchis de voir Magnussen partir comme ça, et ce serait du gâchis pour lui, tout simplement. Il ferait une très mauvaise décision, ce serait très mauvais, et on se souviendrait jamais de ce pilote, forcément, hein, de son court passage, on ne s'en souviendrait pas. Donc, attendons de voir, mais pour l'instant, ça ne m'inspire pas du positif, ces déclarations. C'est vraiment un fatalisme très dangereux de la part de Kevin Magnussen et très dangereux pour sa carrière, en fait. Et j'espère que ce qui s'est passé en début de saison lui a pas trop monté au cerveau, même si je tendrais à dire que si, avec ses déclarations. Mais voilà, c'est dommage pour le jeune Danois d'avoir cette manière de penser et de ne pas avoir la manière, on va dire, humble de penser. Mais McLaren n'a pas aidé à ce qu'il ait une manière humble de penser, apparemment. Enfin, McLaren a fait son possible, on va dire, enfin, a fait avec Magnussen ce qu'elle a fait avec Hamilton, c'est-à-dire propulser un jeune pilote directement dans un top team et lui dire qu'il est talentueux, dire qu'il est talentueux et tout. Sauf que voilà, Hamilton a pu assumer ce statut avec. Bon, il avait une autre voiture aussi en 2007, il avait une monoplace qui luttait pour le titre mondial. Donc c'est assez différent de cette saison. Et sûrement qu'Hamilton était également peut-être plus mature puisqu'il a été suivi depuis son enfance. Je ne sais plus, je ne crois pas que Magnussen a été suivi depuis le karting hein, par McLaren. Je ne suis pas sûr. Information à confirmer. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur Twitter, le Twitter d'Analyse F1 qui est @F1Analyse ou la page Facebook d'Analyse F1 ou Podcast France, n'importe où, pour me le signaler. Mais voilà, c'est dommage. On va voir dans les semaines et mois à venir ce qu'il en est de ce jeune pilote. Mais pour l'instant, je vois du négatif quand je lis ses déclarations et quand je les analyse. Voilà. Bon, me suis assez répété, je crois, sur ce point. Il est temps de clôturer ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. Voilà, vous pouvez l'écouter sur Pod Radio, ah oui, sur la web radio Pod Radio. Je crois que c'est tous les mardis à 14h. Et tous les samedis à 18h30, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc ça, c'est pour écouter le podcast en direct. Sinon, vous avez les plateformes, les diverses plateformes de Podchose hors Pod Radio, comme Podcloud, Podcast France, des plateformes très utiles, très pratiques, notamment Podcloud, où si vous êtes fan de flux RSS, eh bien, vous pouvez vous abonner au flux RSS de l'émission. Donc, n'hésitez pas, voilà. Eh bien, merci à tous et bon Grand Prix de Suzuka. Ensuite, il y aura un podcast qui sera, je pense, j'espère, là, j'espère vraiment le faire en début du mois prochain, début octobre, c'est-à-dire le podcast sur le sécuritarisme de la F1. Ça, j'en fais mon cheval de bataille, là, pour l'émission numéro 2, et je pense que je vais le faire dès la semaine prochaine, voire même je le posterai peut-être un peu plus tôt, on verra. Mais sinon, vivons notre passion ce week-end avec le Grand Prix de Suzuka. À plus.